VOA Afrique, les infos. À Washington.
Bonsoir à tous, Timothée Donongmaï et Morgan Guiriet, en votre compagnie. Bienvenue dans cette édition du mercredi 7 septembre 2016. Au sommaire ce soir.
Tension post-électorale au Gabon au lendemain de la présidentielle. L'opposition exige un nouveau comptage des voix, bureau de vote par bureau de vote dans la province du Haut-Ogooué.
En magazine, nous parlerons du Burkina Faso où la religion pourrait potentiellement être source de problèmes.
Et cette guerre de mots entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, Téhéran estime que la famille royale saoudienne ne mérite pas de gérer les lieux saints de l'islam.
Ne manquez pas notre chronique quotidienne sur la présidentielle américaine.
Et bien sûr, l'économie et les sports, juste après le journal.
Au Gabon, le bras de fer se poursuit entre l'opposant Jean Ping et le président Ali Bongo Ndimba, alors que le pays est plongé dans une des crises les plus graves de son histoire. Le point avec Nani Talani.
Toujours pas de compromis entre les deux camps pour sortir de la crise post-électorale. Les opposants continuent d'exiger un recomptage des voix bureau de vote par bureau de vote dans la province du Haut-Ogooué, fief de la famille Bongo, où le président gabonais a obtenu plus de 95% des voix pour plus de 99% de participation, ce qui lui a permis de remporter la présidentielle d'une courte tête, un résultat que rejette l'opposant Jean Ping. C'est à la commission électorale que le problème se pose. Nous demandons le recomptage des voix bureau de vote par bureau de vote pour la province du Haut-Ogooué, a déclaré René Ndemezo Obiang, coordonnateur de la campagne de Jean Ping à la presse ce mercredi à la veille de la date butoir du dépôt des recours devant la Cour constitutionnelle. Mettant en avant la loi électorale gabonaise, Ali Bongo Ondimba insiste que la saisine de la Cour constitutionnelle est l'unique solution envisageable de sortie de crise. Mais l'opposition décrit cette Cour qu'elle juge totalement inféodée à la présidence. Le président gabonais s'en est pris aussi aux observateurs de l'Union européenne qui dénoncent une anomalie évidente dans les résultats électoraux.
Le mouvement pour la justice et la réhabilitation du Niger, MJRN, un groupe Toubou, menace de recourir à la lutte armée pour défendre sa communauté très minoritaire dans le pays. Le gouvernement du Niger est resté complètement indifférent à nos revendications plus que légitimes, malgré nos cris de détresse face aux dégâts écologiques des sites pétroliers, la dégradation de nos territoires de pâturage et de nos conditions de vie, indique un communiqué signé par Adam Tcheke Koudigan.
Les djihadistes se déchirent au Nigeria. Des combats opposent deux factions rivales de Boko Haram depuis plusieurs semaines dans le pays. C'est ce que rapportent des témoins cités par l'AFP. Boko Haram est en proie à une lutte pour le pouvoir depuis que l'organisation État islamique a annoncé la nomination d'un nouveau chef pour le groupe nigérian. Aboubakar Shekau, contesté pour son ultra-violence, n'a pas accepté son remplacement, provoquant ainsi une division au sein du groupe.
Nigeria toujours, un blogueur spécialiste du conflit dans le nord-est du pays, a été entendu à Abuja par les autorités pour ses liens présumés avec Boko Haram. Ahmad Salkida est interrogé pour détention présumée d'informations concernant l'enlèvement de plus de 200 jeunes filles en avril 2014.
Théodorin Obiang, le fils du président de Guinée équatoriale, soupçonné de s'être frauduleusement bâti en France un patrimoine de dizaines de millions d'euros, a été renvoyé devant un tribunal parisien, ouvrant la voie au premier procès français des biens mal acquis. Lionel Gaïma.
Promu fin juin vice-président de Guinée équatoriale par son père Théodoro Obiang Nguema, il sera jugé par le tribunal correctionnel de Paris pour blanchiment d'abus de biens sociaux, de détournement de fonds publics et d'abus de confiance et de corruption. L'instruction a permis d'établir que Théodorin Obiang a acquis en France entre 2007 et 2011, soit directement, soit par l'intermédiaire de prête-noms ou sociétés écrans, un patrimoine évalué à plusieurs dizaines de millions d'euros, relèvent les juges. Hôtel particulier de 4000 m² dans le 16e, robinet en or, Rolls-Royce, Bugatti, œuvre d'art de la collection Yves Saint-Laurent Pierre Berger ne sont que quelques exemples de la richesse d'Obiang fils. Ce patrimoine, constitué alors qu'il était ministre de l'Agriculture, provient de l'argent, de la corruption et des détournements de fonds publics dans son pays estiment les juges, suivant les réquisitions du parquet national financier qui avait demandé en mai son renvoi devant un tribunal.
La paix serait revenue au Darfour, c'est du moins ce qu'a affirmé Omar el-Béchir, le président du Soudan, à l'occasion d'une rencontre dans l'état du Darfour Nord avec ses homologues du Tchad, Idriss Déby, et du Qatar, l'émir Tamim Ben Ahmad Al-Thani. En juin, l'ONU prolongeait pourtant d'un an le mandat de la mission conjointe des Nations Unies et de l'Union africaine en raison des combats.
Vague de protestations anti-Robert Mugabe au Zimbabwe, la justice a levé l'interdiction de manifester à Harare, décrétée par la police la semaine dernière. Cette mesure avait été prise alors que le président fait face à une fronde populaire. Elle a été jugée illégale par la haute cour du Zimbabwe, d'après l'opposition citée par l'AFP.
Par ailleurs, une commission zimbabwéenne de défense des droits de l'homme affirme que le parti du président Robert Mugabe prive les partisans de l'opposition de l'aide alimentaire d'urgence destinée à pallier les pénuries de nourriture dues à la sécheresse.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, le président américain a poursuivi sa tournée asiatique ce mercredi par une rencontre avec un groupe de jeunes représentant divers pays du sud-est asiatique. Barack Obama est au Laos pour le sommet de l'ASEAN, Association des Nations du Sud-Est Asiatique. Le dirigeant américain a exhorté les jeunes de la région à ne pas seulement rêver de leur avenir, mais à travailler pour que leurs rêves deviennent réalité. La jeunesse a été historiquement le moteur du progrès du développement, a rappelé M. Obama, disant que les pays de l'ASEAN doivent améliorer le niveau de leur système éducatif, tout en prenant soin de ne pas négliger les filles.
Les États-Unis vont fournir 2 avions militaires aux Philippines pour aider l'archipel à renforcer ses patrouilles aériennes. L'annonce de l'armée philippine a été faite dans un contexte de tensions diplomatiques avec Pékin en mer de Chine méridionale. Bagasikura.
Les 2 Sherpas qui étaient jusqu'alors au service des États-Unis seront livrés à Manille en décembre, rapporte l'AFP, citant le porte-parole des gardes-côtes philippins, le commandant Armand Balilo. Cette annonce survient 2 jours après le froid diplomatique jeté par le président philippin Rodrigo Duterte, qui a traité son homologue américain Barack Obama de fils de pute. Ce dernier a décidé en réponse d'annuler mardi sa rencontre bilatérale prévue avec le chef d'État philippin au sommet de l'Asie du Sud-Est au Laos. Duterte a tenté par la suite de s'excuser. Les Philippines, dont l'armée est l'une des plus faibles d'Asie, sont un allié militaire historique de Washington dans la région. En plein sommet de l'ASEAN, ce pays a rendu public aujourd'hui des photos attestant, selon les autorités philippines, d'un plan de construction secret de Pékin d'une île sur le récif de Scarborough, en mer de Chine méridionale, dans une zone revendiquée par Manille.
La guerre des mots entre l'Iran et l'Arabie saoudite a atteint son comble avec des accusations réciproques à 3 jours du pèlerinage à la Mecque, dont les Iraniens ont été exclus cette année. Nathalie Barge.
Mercredi, le guide suprême iranien Ali Khamenei a qualifié la famille royale saoudienne de maudite et maléfique qui ne mérite pas de gérer les lieux saints de l'islam, selon ses termes. La crise entre les deux pays s'est exacerbée avec leur incapacité de trouver un accord sur la participation des Iraniens au pèlerinage, 1 an après la mort de 2300 pèlerins, dont 450 Iraniens, dans une bousculade à Mina près de la Mecque. En mai dernier, Téhéran a accusé Riyad de sabotage et le royaume saoudien a jugé inacceptables les exigences iraniennes pour la participation de leurs ressortissants au pèlerinage. Leurs relations diplomatiques sont rompues depuis janvier à l'initiative de Riyad après l'attaque de son ambassade à Téhéran par des manifestants protestant contre l'exécution d'un dignitaire religieux chiite en Arabie saoudite.
Pour parler de paix sur la Syrie, l'opposition syrienne a tenté aujourd'hui à Londres de relancer les négociations en présentant un plan de transition politique en 3 phases. Négociations avec le régime actuel durant une période de trêve, le départ du président Bachar al-Assad et la tenue de nouvelles élections. Les principaux représentants de l'opposition et de la rébellion en Syrie ont présenté cette feuille de route avant une réunion où devra se dégager une position commune. Pendant ce temps, la Russie et les États-Unis tardent à se mettre d'accord pour obtenir un cessez-le-feu.
Environ 100 000 personnes ont fui ces derniers jours les combats entre les rebelles et les forces du régime de Bachar al-Assad dans la province de Hama, dans le centre de la Syrie. C'est ce qu'a affirmé l'ONU aujourd'hui. Le conflit syrien débuté en 2011 après la répression de manifestations pacifiques contre le régime a fait plus de 290 000 morts et jeté sur les routes des millions de personnes.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé que son pays serait prêt à prendre part à toute opération proposée par Washington en vue de libérer la ville syrienne de Raqqa, fief du groupe État islamique. M. Erdogan a fait cette déclaration aux journalistes l'accompagnant à son retour du G20. Selon le chef de l'État turc, la question a été soulevée lors d'une rencontre avec le président américain Barack Obama à marge du sommet qui s'est déroulé en Chine.
On parle encore de menaces d'attentat à Paris suite à la découverte d'une voiture contenant des bonbonnes de gaz en dispositif de mise à feu stationné au cœur de la zone touristique de la capitale française le week-end dernier. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs avec Nathalie Barge.
Un pont métallique construit en 1919 sur la ligne de chemin de fer Abidjan-Ouagadougou s'est écroulé hier au passage d'un train de marchandises à Dimbokro. Il est prévu de rénover et prolonger cette ligne de chemin de fer pour un coût de 447 millions de dollars. Le forum annuel sur la révolution verte en Afrique se déroule actuellement à Nairobi jusqu'au 9 septembre. Saisir l'occasion, assurer l'essor de l'Afrique par la transformation agricole est le thème de la rencontre. La Banque africaine de développement y présente son programme sur l'agriculture et l'agro-industrie visant à faciliter les investissements privés. Lors du forum armé 2016 qui se tient près de Moscou, la Russie a annoncé avoir conclu avec le Nigeria un contrat de livraison d'hélicoptères de combat Mi-35M. Le mois dernier, l'armée nigériane avait déclaré bientôt prendre livraison de 12 nouveaux hélicoptères d'attaque. Le coût devrait s'élever à 150 millions de dollars selon des experts.
À présent, notre page des sports, c'est avec Tatiana Mosso. Bonsoir Tatiana.
Bonsoir Tim.
Platini, invité par l'UEFA, se rendra bien au congrès d'Athènes le 14 septembre.
Effectivement, il va répondre à l'invitation du comité exécutif pour y faire son discours d'adieu dans le cadre de l'élection de son successeur. Le journal L'Équipe avait révélé que Platini avait été invité par l'UEFA. Il s'y rendra pour remettre à disposition du congrès son mandat de président.
Et dans la course à la présidence de l'UEFA, justement, Tatiana, la fédération anglaise soutient Van Praag.
Effectivement, la fédération anglaise de football a choisi son poulain. C'est le néerlandais Michael Van Praag pour l'élection du 14 septembre prochain. Après le retrait de l'espagnol Angel Maria Villar, mardi soir, le président de la fédération néerlandaise, lui, est âgé de 68 ans et fera face au slovène Aleksandar Seferin.
La flamme olympique s'apprête à éclairer de nouveau le stade Maracana.
Oui, la cérémonie d'ouverture frappe les trois coups des 15e Jeux paralympiques d'été. Entre défis financiers et quête de ferveur populaire, jusqu'au 18 septembre, plus de 4000 sportifs handicapés venant de 161 nations se disputeront les 528 médailles d'or mises en jeu.
Et la Russie, qui a été exclue pratiquement de Rio, organise sa propre compétition, Tatiana.
Alors effectivement, c'est assez particulier. Privée des Jeux paralympiques de Rio, la Russie a organisé sa propre compétition, dont la cérémonie d'ouverture mercredi coïncidait avec celle des Jeux officiels. La sélection paralympique russe au grand complet a défilé devant quelques milliers de spectateurs avant que le ministre russe des Sports, Vitaly Mutko, ne lise un message de soutien de Vladimir Poutine.
Et puis, ce n'est pas habituel, un mot de golf, Tatiana, avec un revenant, Tiger Woods, le grand champion.
Effectivement, oui, il revient dès le mois d'octobre à la compétition.
Voilà, merci Tatiana.
Le Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique. Morgane Guiriec et Timothée Donangmaï en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, Tim, le Tchad.
Le Tchad où l'arrestation de militaires après le scrutin présidentiel défraie la chronique. Arrêté et séquestré dans une prison à la présidence pendant plus de 3 mois, le responsable de la coordination de transmission de la défense déléguée à la présidence de la République a été libéré sans être présenté à un juge. Correspondance d'André Kodmajingar.
Commandant Manayel Najita a été arrêté le 10 mai dernier à la veille de son évacuation sanitaire sur instruction du directeur des renseignements militaires. On lui reproche de s'infiltrer dans le cortège présidentiel, trouble à l'ordre public et espionnage à la solde des candidats malheureux à la dernière élection présidentielle. Victime d'un accident cardiovasculaire, il n'a reçu aucune visite ni de son médecin traitant ni de sa famille durant toute la période de sa détention. Libéré le 30 août 2016 sans une forme de procès, il respire difficilement et évite tout contact selon son entourage. Le président du Cap Sûr, Joseph Dimrangar Dadnadi, se dit surpris des motifs évoqués pour arrêter le commandant Manayel Najita.
Manayel, c'est un parent spirituel. Il fait ce travail sous la crainte de Dieu. Nous savons que le pouvoir, c'est Dieu qui donne. Si Dieu décide aujourd'hui que ça s'arrête, aucune force dans ce monde ne peut l'empêcher. Nous avons cette conviction là-dedans. Pourquoi aller rester dans des groupes fomentés dessus? Non, ça relève des entreprises sataniques. Nous, on n'est pas dedans. Les gens qui font des coups d'État sont des gens faibles. Lui étant des transmissions, c'est un gars qui devait être plutôt décoré. Il est militaire. Les gens, il faut le mettre dans le dossier des militaires d'histoire. Et il est libéré en même temps que le procureur qui dit « je ne poursuis plus ».
Pour le président d'honneur de la Ligue tchadienne des droits de l'homme et représentant de la FIDH auprès de la CEMAC d'Obian Assingar, le cas de ce commandant ne sera pas resté impuni.
C'est un cas que nous avons enregistré et qui fait partie des dossiers que nous gérons. Ils l'ont gardé pendant 3 mois, séquestré injustement. Et au bout de 3 mois, on s'est rendu compte que finalement, il n'a rien fait. On l'a libéré sans un procès quelconque. Il faut contre-attaquer à nouveau. Puisqu'on ne lui reproche rien et on l'a séquestré pendant 3 mois, est-ce que nous allons laisser cette affaire tomber? Non.
Dobian Assingar déclare par ailleurs que l'arrestation du commandant Manayel Najita rentre dans la catégorie des militaires qui ont été arrêtés et séquestrés après le scrutin présidentiel du 10 avril dernier.
Cette histoire n'est pas de la science-fiction. C'est une histoire réelle qui s'est passée malheureusement dans ce pays où plus d'une soixantaine de militaires ont été séquestrés, déportés et torturés sous prétexte qu'ils ont voté pour l'opposition. Nous avons ces plaintes qui sont là, des dossiers bien constitués. Et si le pouvoir persiste, nous sortirons tout, y compris les témoignages audiovisuels, les plaintes et la liste de ceux qui ne sont pas encore revenus.
André Kodmajingar Ndiamena pour VOA Afrique.
Washington Forum ce jeudi, le républicain Donald Trump, en retard dans les sondages, tente de séduire les communautés latino et afro-américaines dans les États indécis. On fera aussi le point sur la candidate démocrate Hillary Clinton en tête. L'état-major républicain demande une enquête sur la fondation Clinton. Les opérations de charme de Donald Trump suffiront-elles ? Engluée dans différentes enquêtes, Hillary Clinton peut-elle sortir indemne de ces nouvelles accusations? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et retrouvez-moi dans Washington Forum, c'est ce jeudi à 19h, temps universel.
Le Burkina Faso aurait-il un problème religieux? La question peut être vous surprendre, mais ICG, International Crisis Group, s'est penché sur la question. Dans un nouveau rapport, l'ONG met en garde contre les périls du modèle burkinabé. Bagui Sekoura a joint à Dakar Cynthia Ohayon, chercheuse pour ICG.
Ce qu'on dit simplement, c'est que le pays se trouve en plein cœur du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, une région qui est de plus en plus troublée, qui est en proie à une certaine radicalisation du discours religieux, à la montée d'un extrémisme violent qui prend parfois le nom de la religion. Et que combiné à ça, on a aussi au niveau interne un contexte multiconfessionnel au Burkina qui fait que ce n'est pas toujours évident pour l'État d'arriver à gérer la diversité religieuse. Et il y a certaines frustrations qui commencent en fait à émerger. quant au traitement et quant aux relations entre l'État et les communautés religieuses. Et donc, c'est toutes ces craintes-là qui font que le modèle de coexistence religieuse du Burkina pourrait être consolidé en prenant certaines mesures pour réduire les frustrations.
Alors, vous dites qu'il y a un certain déséquilibre entre les religions. Vous pouvez développer un peu plus ce point-là?
Oui, alors en fait, donc, le Burkina, comme vous le savez, a été colonisé par la France et donc le système politique aujourd'hui au Burkina fait que les musulmans sont majoritaires. Alors les chiffres sont évidemment à prendre avec précaution pour plusieurs raisons. Et il y a au niveau de l'élite politique et administrative, les chrétiens sont représentés. Et donc il y a un certain déséquilibre en fait en termes de la représentation au niveau de l'élite politique et de l'élite dirigeante. Et c'est ce déséquilibre qui, on va dire, commence à faire émerger certaines frustrations. Bon, on va dire certaines configurations aussi au Burkina font que, en tout cas, les musulmans ont parfois l'impression que le christianisme est avantagé ou que l'islam est moins favorisé. Alors, les perceptions, parfois, ne correspondent pas à la réalité, mais le fait qu'elles existent est important quand même.
Est-ce que le fait qu'on a eu récemment de nouveaux leaders à la tête des institutions nationales, avec un président de la République qui est chrétien, un président de l'Assemblée nationale qui est musulman, un musulman à la tête de la commission électorale, et ainsi de suite, est-ce qu'il n'y a pas cette diversité quand même qu'on peut constater?
C'est justement ce qu'on dit dans le rapport et ce que je vous disais précédemment, que c'est un pays où on voit la diversité malgré ce déséquilibre. Et c'est sûr qu'il y a souvent, comme d'ailleurs dans d'autres domaines au Burkina, toujours cette recherche de l'équilibre et du consensus. Mais néanmoins, il y a quand même certaines frustrations de longue date qui existent et qui gagneraient à être prises en compte le plus tôt possible pour justement essayer de désamorcer les risques de tension.
On sait que le pays a connu, depuis le départ de Blaise Compaoré, une série d'attentats. Rien que la semaine passée, il y a eu un attentat sur le territoire burkinabé. Quel est le rôle de ces attentats-là sur le déséquilibre religieux au Burkina Faso?
Le contexte des attentats fait partie de cet environnement régional qui s'est beaucoup dégradé ces dernières années. Et forcément, inévitablement, on le voit dans tous les pays qui connaissent, on va dire, cette violence terroriste qui prend le nom, qui prend le prétexte de la religion. Tous ces pays connaissent, dans des mesures différentes, une dégradation, parfois en tout cas, des relations entre les communautés. Donc c'est aussi ce contexte terroriste qui est nouveau au Burkina qui fait craindre justement qu'il y ait des menaces supplémentaires qui pèsent sur cet équilibre.
Et Cynthia Ohayon, chercheuse pour l'International Crisis Group.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Nous partons maintenant au Niger. Les autorités de Niamey poursuivent leurs opérations de déguerpissement. C'est dans le cadre de l'embellissement de la capitale qui accueillera en 2019 le sommet de l'Union africaine. Cette semaine, les opérations concernaient notamment les alentours du Grand Marché où environ 2000 boutiques ont été anarchiquement installées. Reportage de notre correspondant sur place, Abdourazak Idrissa.
Ce 5 septembre était le dernier délai que les autorités de la ville de Niamey ont donné aux tenants des kiosques situés aux alentours du Grand Marché, principal centre commercial du pays, pour déguerpir. À minuit, malgré une fine pluie qui s'abattait, les opérations ont commencé. Elles ont duré jusqu'au petit matin. Près de 2000 kiosques ont été cassés à la satisfaction du meneur Hamidou Garba, gouverneur de la région de Niamey.
Vous voyez avec nous que ces occupants ont eu à engloutir même une bouche d'incendie, au point où même la sécurité quand même, du marché a été menacée. Vous avez vu également que l'effet optique qui était là, on a vu un coffre qui a été également englouti par les occupations anarchiques autour du Grand Marché. Donc je pense que cette opération était nécessaire et nous disons Dieu merci pour que je puisse m'adresser à la population de Niamey dans 2 jours. En tout cas, elle pourra passer tranquillement autour du marché, venir au marché faire ses achats pour la fête de d'État basque. Donc voilà le cadeau que nous faisons pour eux par rapport à la sécurité d'État basque.
Mardi et mercredi, le marché central de Niamey restera fermé pour être nettoyé de l'intérieur. Les voies qui y accèdent sont gardées par des éléments des forces de l'ordre. Beaucoup de jeunes commerçants ont eu le temps de ramasser ce qu'ils avaient dans les kiosques. Ils ne s'en reviennent tout de même pas. Comme celui-ci qui déclare n'avoir jamais pensé être chassé à l'étranger et même chez soi. Le déguerpissement des kiosques aux alentours du Grand Marché avait été précédé par une opération similaire qui a concerné les boutiques et étalages situés aux abords des principales voies autour des lieux publics, écoles et centres de santé. Prochaine cible de cette opération qui s'inscrit dans le cadre global de l'embellissement de la capitale Niamey où se tiendra le sommet de l'Union africaine de 2019, les nombreux parcs de vente de véhicules dans les différents quartiers de Niamey. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Présidentielle américaine 2016, après avoir accusé la candidate démocrate Hillary Clinton d'avoir usé de ses relations au département d'État pour canaliser les contributions financières vers la fondation Clinton, une allégation non vérifiée, le républicain Donald Trump est lui aussi confronté à une controverse concernant sa propre fondation. Le point avec vous, Chérubin Dolcil.
La dernière controverse dans laquelle se trouve empêtré le candidat républicain est liée à la fondation caritative Trump, l'Université Trump, spécialisée dans l'enseignement de la gestion immobilière, et l'Institut Trump, une autre institution créée par Donald J. Trump. D'anciens élèves des institutions affirment avoir payé beaucoup d'argent pour une formation sans valeur. La multiplication de telles plaintes avait amené les ministres de la Justice de divers États américains à lancer, sous la houlette de leurs collègues de l'État de New York, une action judiciaire collective contre Trump et ses établissements. La ministre de la Justice de la Floride, Pam Bondi, et ses collaborateurs ont discuté pour savoir si leur État devait se joindre à cette initiative. Entre-temps, Mme Bondi, qui à l'époque battait campagne pour sa réélection, a téléphoné à Donald Trump pour solliciter son appui financier. Par le canal de la Fondation Trump, le milliardaire lui avait envoyé un chèque de $25 000 pour sa campagne électorale. Par la suite, la Floride a choisi de ne pas se joindre aux autres États dans leurs plaintes contre les institutions associées aux candidats républicains. Mme Bondi et M. Trump assurent qu'il n'y a aucun lien entre la contribution électorale de Donald Trump et la décision de l'État de Floride de renoncer à des poursuites contre les établissements Trump. Mais pour les critiques du candidat, il a payé et obtenu en retour que ces institutions ne soient pas poursuivies en Floride.
Donald Trump a tout de même payé une amende pour cette contribution financière à la campagne de Mme Bondi, Chérubin.
La contribution en elle-même n'avait rien d'illégal, Timothée, dans la mesure où le montant se situait dans les limites fixées par la FEC, la Commission électorale fédérale. Le problème, c'est que les fonds provenaient d'une fondation caritative, alors que Donald Trump devait payer sa contribution de sa propre poche. Pour le camp Trump, il s'agissait simplement d'une erreur administrative et le candidat républicain s'est acquitté de l'amende de $2 500 dont il a écopé en rapport avec cette affaire. Pour le reste, Donald Trump assure que les anciens étudiants de l'Université Trump ont reçu une formation de premier plan, que les plaintes contre cette institution n'ont aucun mérite et seront toutes rejetées par la justice.
Merci, Chérubin Dorsil.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme International Music, Comedy et Country Music. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écoutez de la bonne musique et partagez vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. Lionel Gueyma a dirigé la mise en onde avec l'assistance de Joe Gill à la console. Présentation Morgane Diayek et Timothée Donangmaï.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute de VOA Afrique. Merci à nos fans sur Facebook. Vous êtes déjà plus d'1 700 000. on maintient la conversation. Enfin, n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 heures sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wenpanga, Wayegouya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.